Donc voilà, il me reste encore quelques minutes. Donc on va mettre quelques petits commentaires sur cette vie extraordinaire, hein, de Marie Bonaparte, qui avait le destin d'être, de faire partie un peu de la jet set, d'être une fille d'une riche, enfin une héritière de la famille Bonaparte, parmi d'autres, hein, et puis qui devient quelqu'un de, en fait, d'abord, de, je l'ai dit, d'extraordinairement tourmenté dans sa vie, dans son destin, ses blessures, et qui va donc s'intéresser et se donner à la psychanalyse, un petit peu comme une religion. Il va la pratiquer, la propager, et puis l'utiliser pour elle-même. Hein, voilà. Alors sur les personnages qui l'ont entourée, donc elle est morte seulement en 1962, hein, le 21 septembre 62, donc c'est quand même contemporain. Elle était née en 1882, donc voilà. Et donc elle est, je répète, l'arrière-petite-nièce de Napoléon Ier, hein, par son frère Lucien. Lucien a un fils qui s'appelle Pierre. Alors Pierre, le terrible Pierre Bonaparte, hein, qui était l'aventurier, mais assez maléfique, hein, la famille. Et puis Pierre a un fils, Roland, et Marie, la fille donc de Roland. Et Roland, lui aussi, était un personnage intéressant, le père de Marie. Donc c'est un personnage ambigu, hein, à la fois ferme et faible, fier et se laissant parfois humilier, voilà. Et donc il se passionne pour la recherche scientifique, et il notamment l'anthropologie. Alors il voyage beaucoup en Amérique, au Mexique, en Finlande, en Corse, en Laponie. Il accumulera une documentation importante, hein, d'anthropologue, et son œuvre abondante lui vaudra d'être élu en 1907 à l'Académie des sciences. Voilà. Donc c'est son père, mais il est très absent. Il n'est pas, c'est pas un père aimant, hein, si on veut dire. Voilà. Et puis alors son époux, Georges de Grès, on peut citer une anecdote. Il était lieutenant de vaisseau, donc il a été aussi lieutenant de vaisseau sur la marine russe. Il a été dans la marine danoise, je l'ai évoqué, sous l'égide et sous l'aile de son oncle Valdemar. Il fut aussi dans la marine russe. Ce sont tous des cousins, hein, ces têtes couronnées danoises, anglaises, grecques, hein, voilà. Et là, il avait entrepris un tour du monde, hein, son époux, hein, avec son cousin Nicolas II, le dernier tsar de Russie, le tsarevitch à l'époque, fils de... j'ai oublié son nom, c'est le précédent tsar, c'est le numéro 3, je suis confus, bon. Et c'est le fils, son fils Nicolas, qui deviendra Nicolas II. Et donc, à bord de l'Azov, il fait un tour du monde, fin avril 1891, et il visite le Japon. Et là, il y a un incident grave, le 11 mai 1891, au cours d'une promenade en rickshaw, dans une rue d'au-dessus, dans une ville japonaise, eh bien, un samouraï attaque le futur Nicolas II. Hein, et ce sera Georges qui, avec son parapluie, ou avec sa canne plutôt, c'est un géant, Georges, hein, vigoureux, quoi, et il va assommer le petit, il faut dire le petit japonais, quoi. Il va l'assommer et sauver la vie du tsarevitch. Néanmoins, il y aura un mystère là aussi, parce que on se demande, il y a eu des rumeurs, si justement ça n'est pas Georges, et donc peut-être la famille royale grecque, qui aurait fomenté cet attentat, qui aurait suscité cet attentat, voilà. Mais bon, ça paraît étrange, parce que tout de même, il sauve son cousin, il empêche qu'il soit tué, voilà. Et donc, il a eu un rôle aussi, il était administrateur de la Crète, qui était autonome de la Grèce à l'époque, hein, voilà. Alors, sur les amours avec Aristide Briand, elle a eu d'autres amants, hein, notamment psychanalyste, mais là, c'est à l'automne 1913, elle rencontre Aristide Briand chez la marquise de Ganay. Et donc, Briand, en 1862-1932, eh bien, elle le qualifie du plus grand improvisateur qu'on eût entendu depuis la Révolution. Donc elle est séduite, il a été à l'époque déjà 4 fois président du Conseil. Donc c'est une union, un amour, enfin une idylle, enfin, qui va durer. Elle écrit là le bonheur d'être aimé, inspiré par cette aventure. Et donc, ça va durer pendant toute la durée de la guerre de 14-18. Ils échangent des dizaines de lettres en novembre 1918. Toutefois, c'est la fin. Alors, dans son carnet, elle écrit tout comme elle en a la pratique, on l'a vu, sans figure de style et sans romantisme. Je ne voulais pas m'éveiller de ce rêve qui a duré 4 ans. Et laconique, elle ajoute fin 1919, ouvrez les guillemets, épilogue, j'ai appris que depuis un an, il aime une autre femme. Voilà. Donc, c'est cette personnalité de Marie Bonaparte que nous avons découvert. Et donc, la prochaine chronique, ce sera un autre personnage du 19e siècle que nous découvrirons, un écrivain. Hein. Ce sera Honoré de Balzac. Donc, à bientôt, chers amis auditeurs, chers auditeurs et amis. Oui, tout à l'heure, j'ai bafouillé. Ça, c'est toujours un péché. Et vous ne manquerez pas de me le faire observer. Je fais des bafouillages parce que je ne mets pas tout précisément sur des notes. Et il y a un petit peu d'improvisation. Voilà. Et je pense que c'est aussi pour être plus naturel. Voilà, je ne veux pas vous lire un texte comme ça, stéréotypé. Voilà, ça donne un petit peu une impression de direct. Alors, le père de Nicolas II, c'était évidemment Alexandre III, qui était le tsar de Russie, Alexandre III, un géant, qui fut d'ailleurs assassiné, comme son fils Nicolas II le sera, avec toute la famille impériale, en 1918, par les bolcheviks, hein, voilà, avec sa femme, l'impératrice Alexandra Féodorovna, et ses enfants, ses filles, son fils, voilà. Et là, Georges, l'époux de Marie, eh bien, Georges de Grèce avait sauvé Nicolas, alors qu'il n'était que tsarevitch, et que les deux jeunes gens faisaient un voyage un peu initiatique, on va dire, au Japon. Donc, on va terminer la dernière pause musicale, ce sera du Mozart, hein, parce que je trouve que ça convient bien. C'est une musique apaisée, donc on peut supposer qu'après la psychanalyse, eh bien, l'âme est apaisée. Donc, c'est une musique douce, enfin, on va dire un concerto pour violoncelle de Mozart. D'ailleurs, je me souviens avoir, peut-être l'avez-vous vu, sur une émission. Alors, c'était une psychanalyste, Elisabeth Rodinevsko, peut-être sur Freud. Et alors, justement, tout le fond musical, c'était du Mozart. Hein, c'était très prenant, quoi. Ça, c'était donc intentionnel, une musique d'apaisement. Une musique non pas légère, mais tout en douceur, en sensibilité, tout un frémissement. Voilà. Donc, eh bien, je vous quitte. À mardi et à jeudi. Donc je vous rappelle, émission diffusée le mardi, tous les mardis de 12h30, 13h30, rediffusée le jeudi à 22h, de 22h à 23h. Et donc, on se retrouve pour la prochaine chronique, je me répète peut-être, qui sera consacrée à Honoré de Balzac, alors un géant de la littérature. À bientôt, chers amis auditeurs, chers auditeurs et amis.